Bonsoir. Dans un communiqué publié mardi dernier, Amnesty International demande au président Félix Tshisekedi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de place pour des personnes soupçonnées d'atteinte aux droits humains dans son gouvernement. Pour cette ONG, tout complice présumé de tels crimes devrait être immédiatement soumis à une enquête. Quelle lecture faire de cette déclaration? C'est le débat ce soir. Et pour en parler, nous accueillons Jean Maubert Senga, chercheur sur la RDC pour Amnesty International. Jean Maubert devrait nous rejoindre dans ce débat ce soir. Célestin Tundayakasende, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-ministre honoraire des Affaires étrangères, ancien secrétaire général adjoint du PPRD et haut cadre du FCC, Franck Romain pour la République démocratique du Congo. Et enfin, Christian Moleka, analyste et coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
Pour l'émission de ce soir, vous êtes nombreux à donner votre réaction. Centurion de Lubumbashi, par exemple, écrit « Je ne suis pas d'accord avec cette demande d'Amnesty International, étant donné que la RDC traverse une période très sensible, au cours de laquelle les Congolais attendent beaucoup de réalisations selon les promesses du chef de l'État pendant la campagne électorale. Ce n'est pas le moment de céder au règlement des comptes. » Encore de Lubumbashi, Patrick dit « La déclaration d'Amnesty International mérite l'attention de tous, d'autant plus qu'il y a d'innombrables rapports de plusieurs ONG et de l'ONU qui parle des violations graves des droits humains qui auraient été commis en République démocratique du Congo même avant les années 2000. Ce n'est donc pas une question de chasse à l'homme, mais de justice. Albert de Kananga demande à Amnesty International de publier d'abord la liste de tous les politiciens soupçonnés de crimes et de détournements afin que l'opinion nationale et internationale puisse mettre le président en garde en cas de non-exécution de cette démarche. Et enfin, Villefranc de Congo Central écrit: nous voyons tous la bonne volonté qu'a le président de la République, mais pour ce cas, je me demande si le président réussira, car la plupart des membres du FCC sont, d'une manière ou d'une autre, auteurs de crimes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Amnesty International demande au président Félix Tshisekedi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de place dans son gouvernement pour des personnes soupçonnées d'atteinte aux droits humains et que tout complice présumé de tels crimes soit immédiatement soumis à une enquête. Cette requête est contenue dans un communiqué publié mardi dernier. Les détails avec Blaise Makassi.
Selon Yohann Nyanouki, directrice du programme Afrique de l'Est, Corne de l'Afrique et Grand Lac à Amnesty International, les personnes soupçonnées d'avoir participé à des atteintes aux droits humains tenteraient probablement d'entraver ou découvrir des enquêtes sur leur rôle dans ces crimes. Pour elle, le Parlement et les autres institutions doivent vérifier minutieusement les antécédents de toute personne pressentie à un poste afin d'écarter le responsable présumé des crimes relatifs aux droits humains au regard du droit national et international. Je la cite, « Le nouveau président a été l'instigateur des changements positifs depuis son arrivée au pouvoir en janvier, notamment la libération des détenus, la fin de l'interdiction des manifestations et des rassemblements politiques et l'autorisation du retour accordé aux dirigeants de l'opposition en exil. » Fin de citation. Selon elle, la population congolaise veut la justice et la redevabilité pour les infractions passées. La population congolaise veut que toute personne soupçonnée d'atteinte aux droits humains, y compris des membres de l'ancien gouvernement, les militaires, les policiers et les agents du renseignement, soient amenés à rendre compte, a déclaré Yohann Nyanouki.
Merci Blaise Makassi. Jean Maubert Senga, chercheur sur la RDC pour Amnesty International, devrait en principe être de nôtre ce soir pour notre débat. Il traîne encore à se présenter, mais nous allons commencer avec Célestin Tundayakasende, vice-ministre honoraire des Affaires étrangères, ancien secrétaire général adjoint du PPRD au cadre du FCC. Tundayakasende, comment accueillez-vous ces recommandations de l'Amnesty International?
Pour la question, et il était intéressant que de telles questions justement fassent l'objet de critiques, fassent l'objet de discussions dans notre pays, parce que ce sont des questions qui sont récurrentes qui reviennent très très souvent. D'abord, nous devrions nous étonner une fois de plus que la désignation des Congolais dans les instances nationales puisse faire l'objet d'une appréciation ou d'un veto provenant de l'extérieur. Même s'il ne s'agit que d'une ONG, Amnesty International ou autre, ça devrait nous étonner. Quand il s'agit de la RDC, c'est tout le monde qui parle, c'est tout le monde qui élève sa voix et qui veut imposer sa volonté au détriment des intérêts du peuple congolais lui-même. Bon, bref, nous sommes habitués avec ça, ce n'est plus un secret pour nous, mais il ne s'agit pas d'une règle. Et pour cela, nous devons le savoir et aussi le comprendre. Vous savez, comme tous les autres États, et ça, nous le disons chaque jour, et cela a été même un combat pour le président Kabila, Joseph Kabila, ça a été un combat pour lui, parce que il s'agissait chaque fois d'affirmer que la République démocratique du Congo est couverte de sa souveraineté au niveau interne et externe. Cela signifie quoi? Cela signifie que aucune autre force ne peut s'improviser au-dessus de l'État pour recommander la manière dont le gouvernement de la République doit être composé.
Célestin Toudaka-Sende, permettez-moi d'intervenir à ce stade, mais est-ce que là, ce n'est pas aussi déjà brandir une contradiction? Comment expliquer que ce n'est pas seulement le cas pour la RDC, mais tous les pays africains ont ce qu'on appelle l'aide publique qui vient de l'étranger, tous les pays africains, y compris la RDC, aiment la coopération militaire, économique, politique avec l'étranger, acceptent ce qu'on a appelé autrefois les experts dans leur ministère et même dans leur service public. Pourquoi refuser les observations quand on vous les fait aussi?
Non, mais là je crois que nous ne devons pas confondre deux choses. Ce que vous dites là, que ce soit l'aide, que ce soit des dons que nous recevons, la RDC ou les autres pays d'Afrique, ça entre dans le cadre de la coopération et il y a des accords qui sont signés à ce sujet-là. Certains des accords qui sont signés dans le cadre de la coopération sont ce qu'on appelle conditionnels. Ça veut dire que ces accords intègrent en leur sein des modalités, n'est-ce pas, qui sont considérées un peu comme des contraintes, un peu comme des obligations. Cela va de soi. Mais lorsqu'il s'agit ici des principes de droit international, c'est-à-dire l'affirmation de la souveraineté d'un État, le rejet de l'ingérence extérieure, que ce soit l'ingérence des États ou des sociétés multinationales, des privés et autres, ça fait une autre question. Et on ne peut pas confondre. Sinon, vous comprenez, chers amis, je crois que les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Cela reviendrait à dire que, parce que nous recevons, je ne sais pas quelle forme d'aide, et 60 ans après l'indépendance, ou je ne sais pas, jusqu'à la fin du monde, nous serons toujours à genoux en train de recevoir les diktats de l'extérieur parce que nous recevons de temps en temps de l'aide ou je ne sais pas moi de dons ou je ne sais pas de l'accompagnement de la communauté internationale.
Célestin Toundaya-Kassende, je comprends que ce qui peut vous frustrer, c'est peut-être l'intervention des tierces étrangères, mais en matière de recommandations, on note que même les ONG congolaises font régulièrement des recommandations. ACAJ, par exemple, AZADO ou même GED font régulièrement des recommandations à nos autorités. Mais est-ce que ce que propose Amnesty International, est-ce que ce n'est pas quand même une très bonne chose lorsqu'on se rend compte que dans l'histoire récente de notre pays, on a entendu plus ou moins les mêmes revendications que Amnesty, hein, à travers des concepts comme Yann Divet, les gouvernements des vertébrés, le gouvernement des autodidactes. En tout cas, est-ce que ça ne voulait pas dire la même chose, c'est-à-dire des gens qu'il faut à la place qu'il faut?
Bon, d'abord, il faut une mise au point. Et ça, dans notre pays, il faut dire qu'il y a des gens qui naissent avec le pays dans leur cœur. Quand on dit qu'il y a des gens qui naissent avec le pays dans leur cœur, ça veut dire des gens qui naissent dans le cas d'espèce, avec le Congo dans leur cœur. Cela signifie que quand il s'agit des Congolais eux-mêmes, des organisations congolaises et autres, comme vous venez de le citer, qui fassent des observations et tout, à la limite, quand c'est objectif, quand c'est justifié, documenté, ça peut encore passer. Mais ça frustre lorsque des gens qui sont à des milliers de kilomètres, des gens qui ne connaissent pas la réalité du Congo, eh bien, ils prennent position tout simplement parce qu'ils considèrent, je ne sais pas quoi, que eux ont droit de veto sur les Congolais, et qu'ils doivent dire ce que nous devons faire.
Mais est-ce que
ça c'est une chose.
Oui,
mais d'autre part,
oui, est-ce que ce qu'il dit,
il faut considérer le fond, oui, de la proposition elle-même.
Ok.
Le fond de la proposition elle-même, c'est qu'on dit, il ne faut pas que des personnalités qui sont considérées comme des complices de violations des droits humains, eh bien, ils devraient être écartés, ainsi de suite. Là encore, il y a un principe sacro-saint, non seulement à l'intérieur de notre pays, même sur le plan international. Mais comment est-ce qu'on peut considérer qu'une personne est coupable à partir du moment où il n'a jamais été jugé? Sur quelle base, en vertu de quels critères, on dirait que telle personne, lui, est plus impliquée dans une affaire de violation des droits humains par rapport aux autres? Là, mon cher ami, je voudrais que nous soyons clairs là-dessus. Nous risquons de verser dans l'arbitraire. Et là, ça risque d'être très, très grave. Les mêmes pays de l'extérieur, y compris les pays d'origine des Amnesty, qui nous donnent des leçons sur l'état de droit. Cet état de droit doit être fondé sur des principes.
Merci Célestin Tunda Yakassende. Nous allons revenir à vous tout à l'heure, le temps de donner la parole justement pour de meilleures explications aux représentants de Amnesty International. Jean Maubert Senga, chercheur sur la RDC pour Amnesty International. Vous nous avez certainement entendu déjà évoquer le thème de ce soir. Pourquoi ce communiqué d'Amnesty International? Avez-vous l'impression que les autorités congolaises veulent récompenser des personnes à casier judiciaire chargé?
Oui, bonsoir et bonsoir à Monsieur Tunda et aux auditeurs de Radio Okapi. Merci pour cette invitation et l'opportunité donc de parler de ce communiqué qu'on a fait concernant la situation des droits de l'homme en RDC. J'ai suivi en partie l'intervention de Monsieur Tunda et je vais répondre tout à l'heure. Mais permettez-moi d'abord de rappeler aux auditeurs le contenu ou la motivation de ce communiqué.
Mais est-ce que vous pouvez, oui, vous pouvez, s'il vous plaît. Ça, il sera difficile de nous lire tout le communiqué, on n'a pas le temps. Est-ce que vous pouvez nous relever les éléments fondamentaux, la substance?
Évidemment, c'est ce que je voulais faire. Nous avons appelé le président Tshisekedi à s'assurer que dans le gouvernement qu'il va former dans les prochains jours, ainsi que dans les autres institutions de l'État, y compris dans son propre cabinet, au sein des forces armées, au sein de la police, au sein des gouvernements provinciaux, etc., que les personnes qui sont soupçonnées de violation des droits de l'homme ne puissent pas faire partie de ces institutions-là, parce que ces personnes doivent être mises à la disposition de la justice afin qu'il y ait des enquêtes et des procès éventuellement, des procès justes et équitables qui vont finir par les blanchir ou les condamner. Donc ce n'est pas une condamnation en avance. Maintenant, pour revenir au propos de M. Tunda, je vais répondre en quatre points très rapidement. Le premier, c'est que ce que Amnesty International dit, c'est la répétition de ce que les Congolais disent au quotidien. C'est la majorité silencieuse ou pas des Congolais qui le disent, qui le pensent, qui veulent que les gouvernants, que leurs dirigeants soient des personnes intègres et des personnes honorables, et des personnes qui n'ont pas trompé dans les violations des droits de l'homme, dans les crimes atroces qui se sont commis et qui continuent à se commettre dans ce pays au quotidien depuis 20 ans ou 25 ans. C'est l'attente également des partisans de ces partis politiques, que ce soit le PPRD ou aujourd'hui l'UDPS, l'UNC et tous les autres partis politiques. Leurs membres, il y a des membres de ces partis politiques qui ont également perdu des personnes lors des manifestations, par exemple, depuis 2015 et à d'autres occasions. Et ces personnes ne voudraient pas voir des criminels recompensé avec des postes de responsabilité au sein du gouvernement et d'autres institutions de la République.
Jean-Mombert Senga.
Vous l'avez dit vous-même.
Jean-Mombert Senga.
Les organisations congolaises elles-mêmes le disent et le répètent.
Jean-Mombert Senga, est-ce que, par quel mécanisme avez-vous pu recenser les demandes de ces Congolais pour pouvoir les revendiquer cela comme étant leur demande à eux?
Écoutez, nous n'avons pas fait de recensement, ce n'est pas notre mission, mais depuis plusieurs années, Amnesty International mène des enquêtes sur le terrain. Contrairement à ce que M. Tunda a dit, on n'est pas des gens qui sont sur la Lune. Moi qui vous parle ici, je suis Congolais et je fais régulièrement des missions sur le terrain. Il y a des membres d'Amnesty International en RDC et il y a également des organisations congolaises qui font un travail remarquable de documentation les violations des droits de l'homme. Et il en va même de la logique, la simple logique, qui voudrait que des dirigeants, des personnes qui sont soupçonnées de crimes ou de violations des droits de l'homme ne puissent pas avoir des responsabilités qui pourraient leur permettre d'empêcher des enquêtes, d'y faire obstruction, comme on l'a vu. On peut citer des exemples. Donc, Amnesty International, depuis plusieurs années, a mené des enquêtes. Il y a des rapports qui existent, ils ne sont pas les seuls, il y a d'autres organisations internationales, des organisations congolaises également.
Puisque
Tunda ou d'autres qui pensent comme lui n'ont rien à se reprocher, ils ne peuvent que accueillir de bon cœur cette proposition.
Jean-Mombert Senga, puisque vous parlez de ces personnages au casier judiciaire chargé en RDC, pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes ou au moins combien sont-ils?
Bon, alors, je ne vais pas citer les noms, peut-être pour ne pas heurter certaines responsabilités, certaines sensibilités, excusez-moi, mais ces personnes sont bien connues. Les auditeurs qui nous écoutent, ils connaissent les militaires, les généraux, les membres du gouvernement qui ont été cités dans des rapports, qui ont été, qui ont joué un rôle dans les massacres à Yumbi, au Kasai, à Beni, au Tanganyika, dans l'ex-province orientale, dans l'ex-Katanga, etc. Ces personnes sont bien connues. Certaines venaient de se faire élire, ou en tout cas de se faire déclarer élues comme membres du Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, d'autres gouverneurs, d'autres encore dans les assemblées provinciales. Donc ces personnes sont très connues et les faits sont très largement documentés.
Jean-Mombert Senga, cela signifie donc que cette demande ou ce travail que vous faites maintenant aurait pu être fait un peu plus tôt, connaissant toutes ces informations que vous nous partagez ce soir. Vous auriez pu déjà agir en amont pour qu'on n'ait pas déjà dans certaines institutions ce genre de personnage. Pourquoi faire aussi votre demande maintenant alors qu'on n'a jamais vu ni entendu Amnesty International faire cette même demande aux deux présidents Kabila?
Non, alors, déjà, ce n'est pas vrai. On a toujours demandé à ce que les personnes qui sont soupçonnées de violation des droits de l'homme puissent être, qu'il puisse y avoir des enquêtes sérieuses à leur égard et éventuellement des poursuites. On l'a demandé plusieurs fois. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on n'est pas les seuls, encore une fois. Il y a plusieurs organisations internationales, congolaises et autres, qui l'ont demandé de façon constante. Alors, il y a une différence entre les personnes qui sont élues, et comme M. Tunda a dit, il y a une présomption d'innocence, évidemment, pour tout le monde, mais la présomption d'innocence n'a pas empêché, par exemple, le président Tshisekedi de suspendre des directeurs généraux de certaines entreprises, de suspendre un ministre, de suspendre d'autres responsables publics. Le président Kabila l'avait fait en son temps également vis-à-vis de certains responsables. Donc la présomption d'innocence, ce n'est pas un permis pour accéder à des postes. Donc je disais qu'il y a une différence entre les personnes qui sont élues, donc qui réunissent les candidats, les conditions pour être candidates, et qui ont été élus ou en tout cas proclamés par comme élus par la commission électorale et par les institutions de la RDC.
Merci Jean-Maubert Senga. Nous reviendrons à vous pour continuer ce débat. Christian Moleka, analyste et coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC, comment trouvez-vous ces recommandations de Amnesty International, mais aussi le timing de ces recommandations?
Merci pour la question. Je pense d'abord qu'il faut dire qu'ils sont dans leur rôle. Parce que le droit international aujourd'hui a évolué, les États ne sont plus les seuls acteurs, il y a aujourd'hui des organisations internationales qui sont aujourd'hui comme acteurs internationaux, il n'y a pas que Amnesty, il y a Greenpeace, on ne fera pas la leçon ce soir, mais ils sont dans leur rôle de pression, et puisque les conditions paraissent favorables, parce qu'on a un président de la République qui a donné des signes assez positifs de vouloir mettre en place un état de droit, d'ouvrir l'espace politique, et puisque les signes paraissent plus probants aujourd'hui, et donc c'est pour cela que, de mon point de vue, Amnesty a profité de l'opportunité pour dresser au président ce moyen de pression qui pourrait permettre à terme de réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser par les urnes. Parce que les élections ont également pour finalité de renouveler la classe politique. Malheureusement, on a comme le sentiment que la perception populaire de rupture telle qu'exprimée avant les élections n'ont pas été confirmées par les urnes. Et il y a aujourd'hui une certaine classe politique qui est revenue par les urnes et qui revient aux commandes
presque en masse, hein,
presque en masse,
ils sont majoritaires dans les institutions,
qui revient presque miraculeusement dans la science de l'affaire publique. Et donc ce sentiment là de ce besoin de rupture exprimé par la population, ce sentiment là de désarroi parce qu'on n'a pas pu résoudre le problème par les urnes peut justifier le communiqué d'Amnesty de vouloir amener par une autre porte ce débat qu'on a tenté de régler par les urnes. Et donc, oui, il est autoportant, mais en même temps, il faut se poser la question sur ce que l'on peut appeler la réelle politique. Il y a d'un côté cette volonté du président, mais d'un autre côté, l'alliance avec le FCC, avec son partenaire, qu'il est censé respecter, parce que lorsqu'on est en coalition, il y a forcément des concessions mutuelles. Donc, il y a des choses qu'on saura faire et d'autres qu'on ne saura pas faire. Il y a à la fois la volonté, mais également les limites d'une coalition, qu'il faudra assumer avec ces acteurs-là avec lesquels il a fait alliance.
C'est notamment le point de vue de cet auditeur au début qui disait que la bonne volonté du président de la République risque de ne pas suffire vu qu'il y a justement cette alliance FCC-CACH qui lui met un peu la corde au cou.
Bien évidemment, je crois qu'il a certes la bonne volonté de changer les choses, mais il a un partenaire. La meilleure femme du monde, disons que c'est qu'elle a, ce partenaire sur les FCC, il faudra l'accepter avec ses tares et avec ses bienfaits. Je crois que des échanges, il y aura certainement d'améliorations, mais on ne changera pas le FCC, le FCC demeurera le FCC.
Mais la question que j'ai posée tout à l'heure à Amnesty International, est-ce que ils ont disposé de suffisamment de matériaux pour pouvoir arriver à la conclusion qu'il faut exclure une certaine catégorie d'individus? Et puis, on a l'impression que ces mêmes revendications qui sont adressées au président de la République directement aujourd'hui n'avaient pas été faites à son temps, notamment avec les deux présidents Kabila, comme j'ai posé la question tout à l'heure.
Je crois qu'il y a énormément de mapping, énormément de rapports sur le Congo, notamment les trois dernières années, énormément de rapports sur le Congo, sur les violations des droits de l'homme, et si on y jette bien un regard attentif, on verra qu'il y a des cas très précis, documentés, qui ont été présentés autour des personnalités politiques du pays. Il y a même des sanctions qui ont été prises.
La revendication n'avait pas été aussi précise, aussi directive, adressée au président de la République comme c'est le cas maintenant.
Oui, mais parce que comme je le dis, il y a un contexte favorable. il y a un contexte favorable d'un nouveau régime qui a ses débuts, qui donne des signaux d'ouverture, en tout cas
d'écoute
et des dispositions à mettre en place un état de droit. Et donc, puisqu'il y a un contexte favorable, on saisit l'opportunité pour le présenter tout ça.
Alors, beaucoup de gens demandent à cette ONG, donc Amnesty International, de pouvoir publier la liste intégrale, d'où la question que j'ai posée tout à l'heure. Beaucoup de nos auditeurs sont revenus sur cette demande de publier la liste intégrale de toutes ces personnalités indésirables. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que ce n'est pas le travail de l'ONG. Je pense qu'ils ont suffisamment documenté les violations pour que la justice congolaise, le procureur général, puisqu'il aime bien se saisir du dossier, pour que le procureur général se saisisse du dossier. C'est à la justice de continuer le travail. Puisqu'il y a déjà un travail d'information qui a été fait, puisqu'il y a un travail de documentation suffisamment avancé, c'est à la justice congolaise de saisir des rapports et d'interpeller les concernés pour que justice soit faite. Ce n'est pas à Amnesty de se substituer à la justice congolaise, c'est à la justice congolaise de se saisir de l'opportunité qui lui est offerte par ces rapports.
Nous allons repartir du côté de Célestin Tunda Yakasende. Nous allons l'inviter à écouter déjà d'entrée cette remarque de Roland Loboko.
John Roland, depuis la ville de Kindu, Maniema. L'idée est bonne, mais l'ONG devrait mettre ou publier les noms des personnes corruptibles ou soupçonnées à la pratique de mauvaise gouvernance pour permettre au président Félix d'avoir une idée sur ces gens qui ont mal travaillé avec le régime passé, si possible que l'État ou le président de la République puisse les traduire en justice pour permettre à la classe politique actuelle d'améliorer leur mode de travailler pour éviter de tomber dans les erreurs de l'être nécessaire. À mon avis, se limiter seulement à de telles réactions n'empêchera pas le président de nommer ces gens dans son gouvernement, car le CACH et le FCC sont des partenaires politiques et ils ont les accords de diriger ce pays ou gouverner ensemble.
Célestin Tunda Kassende, réaction?
Oui, j'ai réagi au propos de Roland Loboko, mais ma réaction va rencontrer également ce que les deux amis d'Amnesty et de l'expert ont dit tout à l'heure. Premièrement, je voudrais, parce qu'il y a un peu de sous-entendus dans ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut bien que les gens comprennent que ce n'est pas au FCC où se cachent les gens qui sont coupables de certaines infractions dans notre pays. Le FCC n'est pas un regroupement de malfaiteurs. Au FCC, il y a des personnalités, n'est-ce pas, qui sont dignes. Il y a des personnalités qui sont propres, très propres. Donc il ne faut pas qu'on fasse la confusion pour dire le président Tshisekedi doit faire avec le FCC parce qu'ils sont partenaires et n'a pas d'autre solution. Non, le FCC n'est pas cela. Il faut que ça soit bien dit. Deuxièmement, je crois que nous devons parler le même langage avec tous les amis, que ce soit Loboko ou les autres experts qui disent. Nous n'avons jamais interdit, disons, à la justice de faire son travail dans ce pays. Rappelez-vous que le président de la République lui-même, le président sortant, Joseph Kabila, dans tous ses discours devant l'État de la Nation, il a toujours fustigé le fait que la justice n'a pas poursuivi telle ou telle autre situation. Il a toujours parlé de la justice, raison pour laquelle nous voudrons dire qu'il n'y a personne qui est défenseur de l'impunité. Ce que nous voulons éviter, c'est l'arbitraire. Parce qu'il faut faire attention que lorsque on va à la crier, on commence à citer tel ou tel ou tel tel nom pour dire qu'il est coupable de ceci, coupable de cela, nous risquons de verser dans l'arbitraire et c'est très dangereux. Voilà tout simplement ce que nous sommes en train de dire. Je ne peux pas concevoir que, peut-être moi j'ai une déformation des juristes, qu'on dise voilà il y a des listes qui existent, mais pourquoi ces listes? Et là vous avez posé une très bonne question. Qui sont ces personnes? Pourquoi Amnesty International n'a jamais agi en amont depuis longtemps? Mais je crois que nous devons faire attention parce que la justice elle était toujours là. Et s'il y avait des gens véritablement, surtout des infractions aussi graves, comme portant atteinte sur les droits humains, il fallait soumettre ces gens-là devant la justice. Et si cela n'a pas été fait, on va confectionner
des listes. Sur quelle base? Qui a la compétence et la capacité de confectionner une liste de coupables sans s'être référé à la justice? Voilà tout le problème. Alors, on dit qu'il y a des exemples, parce que le président actuel, le président Tshisekedi, aurait pris des mesures contre certains responsables, donc ça doit être un exemple à suivre. Je ne refuse pas, mais il ne faut pas que les amis puissent confondre encore une fois certains concepts. Quand le président de la République, sur le plan administratif, il y a des fautes administratives qui sont avérées, il peut agir, il peut suspendre un responsable, il peut à ce moment-là le déférer devant la justice, mais ce n'est pas la même chose qu'une infraction. On doit soupçonner quelqu'un en disant « non, celui-là, on le soupçonne d'une infraction grave ». Eh bien, il doit être privé de ses droits fondamentaux, sans jugement, sans justice. Je ne sais pas quel est le monde qu'Amnesty International voudrait fabriquer pour le Congo. Qu'on prive les droits fondamentaux à certains Congolais sur base des soupçons. Je ne crois pas que le président Tshisekedi, parce que le président Tshisekedi lui-même, il dit, il est partisan de l'état de droit. L'état de droit n'est pas fondé sur les soupçons. Et il ne faut pas conduire le président Tshisekedi sur la voie de l'arbitraire. C'est ça qu'il faut absolument éviter.
Merci Célestin Tunda Kassende. Nous reviendrons à vous pour faire les conclusions du débat de ce soir. Allons plutôt du côté d'un autre auditeur qui, lui, va réagir à l'intention de Jean Mombert Senga. Nous écoutons donc Centurion de Lubumbashi.
Centurion Mayimbu, depuis la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette démarche d'Amnesty International, étant donné que le pays traverse une période très sensible au cours de laquelle les Congolais attendent beaucoup de réalisations selon les promesses du chef de l'État pendant la campagne électorale. Il n'est pas temps de céder au règlement des comptes, car le pays a besoin d'un développement auquel devrait participer tout Congolais, bon ou mauvais. Quant aux enquêtes à mener, il faudrait le faire pour tous les crimes commis depuis 1990, car tous étaient des Congolais. Appuyer cette enquête d'Amnesty International, selon moi, c'est mettre de l'huile sur le feu.
Réaction? Jean-Mombert Senga.
Je respecte l'opinion de l'auditeur. Oui.
Allez-y.
Vous m'entendez? Je respecte l'opinion de l'auditeur et j'ai suivi les interventions de mes prédécesseurs, de mes co-débatteurs ce soir. Je pense que c'est une erreur de penser que justice ou l'impunité va favoriser la paix. Ça fait 20 ans ou 25 ans que la RDC est dans un cycle infernal de crimes, de massacres, de violences, de viols, etc., dans une société quasi généralisée. Et l'impunité des criminels ne les a pas aidés à devenir meilleurs. Au contraire, et les aider à commettre des crimes. On a vu des personnes, des militaires, qui sont connus là encore, commettre des crimes, des massacres à Kiwanja en 2009, ou encore à Chaliot, dans le Massissi, au Nord-Kivu, puis être impunis, malgré les enquêtes ouvertes par la justice congolaise, la justice militaire, et puis ils ont été envoyés au Kassai, où ils ont commis exactement la même chose. L'impunité, ce n'est pas une solution du tout. Alors, je vais quand même revenir sur ce que M. Tunda a dit tout à l'heure, l'arbitraire. Nous ne sommes pas en train de défendre l'arbitraire, loin du monde. Mais le seul remède contre l'arbitraire, justement, c'est la justice. Ce qu'un homme ou une femme politique responsable fait lorsqu'il y a des soupçons graves qui sont portés à son encontre, il se met à la disposition de la justice le blanchit. S'il a des moyens, il les présente et la justice le blanchit et alors il peut continuer ses activités politiques en toute quiétude. Mais lorsque on se dit, comme il y a des soupçons, on les balaye d'un revers de la main et on veut continuer à garder les signes et après on commence à faire des invites, ce sont des organisations occidentales, etc., ça signifie tout simplement que c'est irresponsable et qu'on n'est pas prêt à faire face à ses propres... à ses propres actes. La présomption d'innocence, pour rappeler, même dans le droit congolais, ce n'est pas une présomption absolue. Lorsqu'un procureur ou un auditeur militaire
décide de mettre quelqu'un en détention provisoire, il se base sur quoi? Il y a des informations d'abord, et ensuite il y a des soupçons ou des indices, ce qu'on appelle en droit des indices sérieux de culpabilité, qui le pousse à placer quelqu'un en détention préventive en attendant son procès et sa condamnation.
Jean-Mombert Senga. Les
personnes qui sont mises en détention préventive
Jean-Mombert
Senga. Sont pas condamnées pour autant.
Jean-Mombert Senga, les gens dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ont été fichés comme avoir commis des crimes, n'ont pas été nommés dans les services ou dans les institutions congolaises pour qu'aujourd'hui vous en arriviez à prendre ça comme une jurisprudence et à appeler à la prudence.
Non, mais vous connaissez, vous savez quand même que le général Dominguez, pour ne pas le citer, puisqu'on veut qu'on cite des noms, le général Dominguez a été soupçonné gravement dans l'assassinat de Floribert Chebeya en 2010. Il a été suspendu pendant quelques temps, et après, sans aucun procès, il a été réintégré, il a même été promu dans les grades, il a réintégré l'armée, et il occupe aujourd'hui la fonction d'inspecteur général des forces armées de la RDC.
Mais est-ce que ce n'est pas
normal?
Est-ce que ce n'est pas,
un procès qu'on lui fait?
Est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas un peu normal puisqu'il n'a jamais été reconnu coupable ou condamné dans par rapport à ces accusations là?
Mais le problème, il va être reconnu coupable par qui alors qu'il n'a jamais été mis à la disposition de la justice? Même dans ce procès précis, il n'a pas pu comparaître en tant que disons, il n'a pas pu être jugé parce qu'il n'y avait même pas de juge de son grade pour pouvoir l'interroger. Ça, ce n'est qu'un exemple.
Jean-Mombert Senga.
On est des hommes politiques et des femmes politiques. Plus ou moins dans la même situation.
Jean-Mombert Senga, un peu comme l'observation des centurions tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, revenir sur des accusations des gens qui ne sont pas encore condamnés et les exclure, est-ce que ce n'est pas justement grossir le fossé de la cohésion nationale alors qu'on appelle à la cohésion nationale et à l'unité?
Non, pas du tout. Et je suis sûr que le président Félix Tshisekedi et son entourage sont conscients de ce fait. L'impunité, ce n'est pas une garantie de la paix. Pas du tout. S'il y a un pays où cette fausseté a été expérimentée et prouvée, c'est bien la RDC.
Merci.
Depuis 25 ans, on a assuré l'impunité à des généraux, à des ministres, etc. Mais on n'a ni la paix, ni la démocratie, ni la liberté, ni rien du tout.
Merci Jean-Mombert Senga. Nous allons écouter à présent Axel de Goma.
Axel Barengeke depuis Goma. Je crois que toutes les autorités ciblées par des sanctions ou citées dans des rapports pour atteinte aux droits humains devraient se mettre à l'écart du prochain gouvernement. Cela pourra crédibiliser d'une manière ou d'une autre le pouvoir en place, accusé déjà à tort ou à raison d'être soumis aux injonctions de l'ancien président. En plus, quand on est vaincu aux élections par le parti adverse, on devient automatiquement opposant et non partenaire politique, comme on est en train de vouloir le forcer depuis le 10 janvier 2019. Il appartient donc au nouveau président de choisir qui il veut dans le camp de son partenaire, entre guillemets, FCC, comme premier ministre ou ministre, sinon il y aura risque de parallélisme au sommet de l'État.
Christian Muleka, vous avez entendu tout à l'heure Célestin Tundaka Sende protester du fait qu'on a tendance, il s'est senti en fait pointé du doigt, en fait, il a eu l'impression que le FCC est régulièrement pointé du doigt comme mauvais élève.
Oui, il n'a pas tort de le dire parce que effectivement, lorsqu'on lit les communiqués ou les interventions dans les médias, on cible essentiellement le FCC, mais ce n'est pas, je crois, ce n'est pas le propre du FCC. Nous parlons du gouvernement de manière générale et de tous les parties prenantes qui vont prendre part à ce gouvernement-là. Je crois qu'il faudrait que nous travaillions à l'intégrité des décideurs, que nous travaillions à une plus grande moralité des décideurs. Et il est tout à fait normal que ce débat revienne. Et comme le FCC est l'un des grands partenaires du gouvernement, il est donc logique qu'on le pointe du doigt en tant que grand partenaire. Il devrait accepter la chose ainsi.
Et peut-être parce que le FCC est justement cette partie de l'alliance qui a géré, qui a déjà un passé dans la gestion.
Exactement, ils ont un passé dans la gestion. Ils sont majoritaires au Parlement. Ils vont revenir dans l'exécutif à nouveau. Et donc il est logique qu'après 18 ans de gestion, que le peuple garde quelques souvenirs, je dirais, assez frais de leur passage. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'il n'y a pas quelques mois, ils étaient encore au pouvoir. Et donc la mémoire est encore vive et il est normal que le doigt soit pointé vers eux parce que c'est eux qui viennent de la gestion. Maintenant, partant de ce que dit Axel, je dirais, Axel, que nous sommes dans un régime semi-présidentiel et que la majorité parlementaire n'est pas forcément la majorité présidentielle. Il faut qu'ils tiennent compte de ce paramètre-là. Maintenant, est-ce qu'on peut fonder des accusations partant, en fait, des sanctions, partant des soupçons? Je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Le Amnesty nous aurait aidé si ce rapport aurait été publié un peu plus tôt. Et la justice nous aurait aidé si des procès avaient été également menés pour dédouaner ceux qui peuvent le dédouaner et traduire déférer devant les cours des tribunaux ceux qui doivent être déférés. Nous ne pouvons pas faire un débat de supputation parce que là nous sommes en train de faire un débat de supputation. Même si le mapping report ont été élaborés, mais il ne s'agit pas des jugements pour incriminer de manière définitive des personnes. Et à ce stade, les débats ils deviennent malaisés parce que nous parlons de suppositions. Je crois que, mais dans le fond, le débat il est fondamental dans le fond parce qu'il aborde une question cruciale qui est celle de l'intégrité des décideurs. Et si ce débat peut aider les présidents à nous proposer un gouvernement, non pas dans la démarche uniquement, mais dans les personnes qu'ils composent, peut incarner cette rupture et ce retour de l'intégrité, ce serait une bonne chose. C'est ça l'attente de la population de manière fondamentale. Et le reste pourra suivre après.
Christian Moleka, c'est déjà le moment de conclusion. Avez-vous l'impression que la demande d'Amnesty International peut trouver suite favorable? Est-ce qu'on peut échapper à laisser un grand nombre de gens qui sont douteux?
Le président Kabila nous avait fait un débat il y a quelques temps sur le choix entre la paix et la justice. Lorsque vous en souviendrez encore, mais ce débat nous revient aujourd'hui. Entre la paix et la justice, il faudra choisir. Et moi, je pense qu'il faut choisir la justice. Parce qu'on ne peut pas construire la paix sans la justice, il faut choisir la justice. Mais en même temps, il faut le faire dans un processus un peu plus long, qui ne soit pas limité à l'échéance d'un mandat gouvernemental. Il faut l'inscrire dans la durée comme une démarche irrévocable où toute action d'impunité sera combattue. Il ne faut pas l'inscrire dans la limite du mandat gouvernemental.
Alors, Jean Maubert Senda, comment voyez-vous votre demande trouver écho favorable?
Écoutez, comme je disais, le président Félix Tshisekedi a fait des premiers pas positifs en matière de droits humains et cela doit être consolidé par la manière dont son gouvernement va ressembler.
Merci. Célestin Toundayaka Sende, en un mot, est-ce qu'on peut compter sur les valeurs pour le gouvernement prochain?
Oui, il faut compter sur les valeurs. Moi, j'ai dit que si nous voulons aider le président Tshisekedi, il faut lui dire, n'est-ce pas, de choisir des personnalités compétentes.
Merci. Qui ont l'amour. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir écouté. Au revoir.